peut-on gagner contre la mort? Quel est le point de vue de la Bible à ce sujet? Est-ce que quelqu'un d'entre vous, ou est-ce que vous connaissez un certain professeur Mahloud de l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis? Quelqu'un connaît? Non? Ben, ça tombe bien, moi non plus, je ne connais pas. Mais, j'ai entendu à la radio que ce monsieur dirige une équipe qui vient d'inventer un robot. Et ce robot, on l'injecte dans le corps humain, et puis il va ensuite, et on a trouvé un moyen pour le guider dans le corps humain. Et ce robot, eh bien, c'est un tout petit, tout minuscule robot. C'est pas du tout un gros bazar, hein. C'est un tout petit, mais un petit rikiki, comme on peut dire. Eh bien, ce petit robot, il rentre dans le corps et il va se balader, guidé par les spécialistes, et il va réparer le corps humain. Il va soigner les maladies. Il va prévenir les malformations physiques, il va faire un boulot anticipatif. Et on dit aussi que cette équipe-là est en train de travailler sur d'autres robots qui sont en étude pour remplacer les cellules malades, guérir des cancers, des diabètes, bref, trouver une solution pour l'immortalité humaine. Bah oui, pour qu'on continue à vivre et à vivre. Et à vivre. C'est comme si l'homme se préoccupe de la bonne santé et de sa bonne santé. Est-ce vrai? Oui, mais. Je pense que derrière la préoccupation de la bonne santé, il y a une autre préoccupation qui est derrière. Je pense qu'on veut lutter contre la mortalité. On dit ça souvent, hein? On veut empêcher la mortalité infantile, on veut empêcher la mortalité des humains, on résout les problèmes pour que l'homme ne puisse pas mourir, qu'il reste en vie. Mais c'est comme si l'homme était engagé dans une course contre la montre face à la mort. Comme s'il veut reculer les possibilités de mourir. Comme s'il veut changer la mort à la vie. Qu'il n'y ait plus de mort, tout simplement. C'est à croire que l'homme veut véritablement faire face à la mort. Il est vrai que les progrès scientifiques ont permis aux gens de vivre plus longtemps, en meilleure santé. Sans compter que ces mêmes progrès ont permis l'amélioration des conditions de vie. On travaille avec moins d'efforts, on a des appareils pour nous aider à travailler, même nos voitures ne nous demandent plus beaucoup de muscles, il suffit même avec mon petit doigt là faire comme ça, la voiture ça tourne. Dans le passé, moi j'ai commencé à conduire déjà à l'époque où il y avait des voitures qui n'avaient pas encore les... c'était pas encore très populaire, hein, les directions assistées, eh bien on pouvait quand même tourner quand même avec un peu plus d'efforts. J'imagine et je pense à tous ces gens qui ont dû travailler dans des métiers durs comme dans la maçonnerie où ils devaient porter des machins. Je ne sais pas moi comment ils faisaient pour monter sur faire les échafaudages ou même monter sur les toits avec tous les bagages. Mais aujourd'hui, vous avez des grues qui viennent, qui déposent des machins, etc. Oui, on a facilité la vie de l'homme afin que son corps reste en bon état. Et qu'ainsi, il soit en meilleure santé, et qu'ainsi, il ne meure pas. Ou plutôt, qu'il ne meure pas vite. Vous comprenez? C'est contre la mort que l'homme en a. L'homme a peur de mourir. La mort le terrorise. Ça, c'est le problème de l'homme. La mort le terrorise. Pourquoi? Parce que il ne sait pas où il va avec la mort. Quelqu'un peut me dire où est-ce qu'il va avec la mort? Je ne sais pas. Si on regarde comme ça, on dit, mais attends, je vais mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. J'ai peur. La mort est comme un spectre, comme un épouvantail. D'ailleurs, j'aime bien cette image de la faucheuse. C'est la raison pour laquelle je l'ai mis sur les invitations, là. La faucheuse, toute sombre, toute dangereuse, qui vous rappelle que on n'est pas en paix, on n'est pas tranquille. La mort ne nous tranquillise pas. Elle nous fait peur. La mort, c'est l'incertitude, c'est le froid, c'est l'effroi. C'est pour cela que l'homme recherche l'élixir de jouvence. Vous connaissez ce mythe où l'homme recherche de rester en permanence jeune, la Joconde. Pourquoi ? Parce que la jeunesse, c'est la phase où on est au mieux de sa santé. Et si on peut rester éternellement jeune, waouh ! Chouette ! C'est pourquoi l'homme refuse de vieillir et que tout ce qui est en rapport avec la vieillesse, ça dérange, ça gêne. Moi, j'espère, avec mes cheveux blancs, que quand je serai vieux, et que j'en aurai encore plus, parce que j'en ai déjà, mais j'en aurai encore plus, mais j'espère que je serai tout content et tout fier, moi, avec ma vieillesse, et peut-être ma canne, ou j'en sais rien, moi, ça, c'est jamais comment on va être. Hein. Mais l'homme a peur de vieillir. Il a peur. Parce que derrière la vieillesse, il y a l'idée de la mort. Il y a le rendez-vous. Vivre sans fin, c'est ça que l'homme veut, l'éternité. Une vie où il n'y a plus de mort, où la question de la mort est réglée. Mais est-ce la question de la mort ou ce que la mort fait sur nous, l'effet de la mort sur nous? Pourtant, malgré toutes les tergiversations de l'homme, malgré tout le progrès de la science, malgré toute sa bonne volonté, l'élixir de jouvence et les machins, les guides, les comment on les appelle, les trucs, les potions que les Astérix fait là, la potion magique, et tout ce qu'on veut, malgré tout cela, la grande faucheuse, la mort telle une grande faucheuse, nous surprend toujours. Elle nous surprend toujours au moment où on s'y attend le moins. Elle nous surprend toujours au moment où on ne le veut pas. On nous surprend toujours au moment où on n'est pas prêt. Est-ce qu'on peut gagner contre la mort? Peut-on gagner contre la mort? Peut-on vaincre cette grande faucheuse? Peut-on faire mieux que les progrès scientifiques? Alors, on va voir un peu quelle est la vie, quel est le point de vue de la Bible. Comment la Bible parle de la mort? Alors, la mort est un sujet vraiment très présent dans la Bible. C'est un sujet qui apparaît dès les premières pages de la Bible. La mort s'invite déjà dans l'histoire de l'humanité dès les premières pages de la Bible. D'où vient-elle? La Bible dit, dans le livre de la Genèse, que la mort, eh bien, elle a pris corps, elle a commencé à exister à cause du péché. Alors, le péché, c'est quoi? Le péché, ce n'est pas faire, aller tirer la barbe de Jaco. Ça, c'est pas le péché, même si ça va l'ennuyer. Hein. Le péché, ce n'est pas aller taper sur quelqu'un. Et puis, le péché, c'est pas tout ce que je vais faire en mal. Le péché, c'est d'abord et avant tout une attitude, un comportement, un choix face à Dieu. Le péché, c'est le choix de vivre sans Dieu, sans tenir compte des exigences de Dieu, sans tenir compte de ce que Dieu veut. Le péché, c'est cela, c'est l'attitude et le choix d'une vie où je tourne le dos à Dieu. Au départ, dans la Bible, c'est Adam et Ève qui choisissent de désobéir à Dieu devant le mensonge du serpent ancien. Cet arbre dont ils ne pouvaient pas manger le fruit, ils en mangent parce que le serpent leur a dit que c'est pas vrai ce que Dieu a dit. Dieu a dit que vous ne devez pas manger ça. Oui, mais il a dit ça parce qu'il sait que si vous le mangez, vous devenez des dieux. Ah, on devient des dieux. Ah, boum, intéressant. Surtout qu'on admire bien Dieu et que, voilà, pourquoi pas? La désobéissance. C'est là le point de départ de l'histoire du péché. Les hommes posent, Adam et Ève posent un acte de rébellion devant Dieu. Ils désobéissent à Dieu. Et qu'est-ce que cela entraîne? Cela entraîne que la relation qui existait entre l'homme et Dieu est rompue. Il est rompu. Un peu comme si vous rentrez en dispute avec quelqu'un parce que il a fait quelque chose qu'il savait qu'il ne devait pas faire et que vous lui avez dit de ne pas faire. La relation est rompue. Et cette relation qui est rompue, elle entraîne la séparation avec Dieu. Une séparation spirituelle avec Dieu. Le Dieu créateur est aussi le Dieu saint, qui ne peut pas laisser le péché impuni. La mort est donc avant tout, la première définition de la mort dans la Bible, elle est avant tout la séparation spirituelle avec Dieu. La rupture du cordon ombilical qui reliait le Créateur à la créature. Un déchirement, une séparation. Et dès le moment où il y a cette séparation, dès le moment où la relation est rompue, la mort spirituelle entre en route, en place, alors l'homme s'installe dans le cycle du mal et des malheurs. C'est pour ça que je disais que le péché, ce n'est pas le fait de frapper. Le fait de frapper, le fait de faire du mal, ce sont les conséquences du péché. C'est la consommation de la rupture qu'il y a eu entre l'homme et Dieu. Le cycle de malheur, le cycle du mal, sous toutes ses formes, violence et toute autre trahison, malhonnêteté, injustice, etc. Et le comble dans le cycle du mal et des malheurs, le comble, ce n'est pas le dépérissement de notre corps, puisque Dieu l'avait aussi dit. Mais le comble, c'est la mort physique. Au-delà de tout ça, c'est la mort physique qui est le comble même du cycle du mal dans lequel l'homme désormais se trouve, à cause du péché. La mort devient donc le terminus de l'existence humaine. Et personne ne peut échapper. Personne. Tous, on est logés à la même enseigne. Et plus rien ne changera cette donne. La mort physique s'inscrit désormais dans nos existences à cause du péché. C'est un constat, une conséquence. Ce n'est pas une malédiction que Dieu instaure. Dieu n'a jamais dit, voilà, je te maudis, humain, désormais tu vas mourir, etc. Non. Mais c'est la conséquence du choix de l'homme. Et j'aimerais vous proposer un texte dans la Genèse au chapitre 3. Vous pouvez regarder sur le rétroprojecteur. Regardez ce que Dieu va dire à Adam. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. C'est ça le destin de l'homme désormais, à cause du péché. Dieu a créé l'homme pour vivre avec lui. Et la vie avec Dieu impliquait que la question de la mort n'était pas à l'ordre du jour. On dit que notre âme est immortelle. Mais la mort physique vient s'inviter à cause du péché. Le péché a entraîné une espèce de transformation de la nature et de notre environnement. Cet environnement qui était un jardin auparavant est sûrement et certainement un jardin facile à travailler, devient de la pierre, de la ronce, des épines. Ça devient quelque chose de dur à faire, de dur à s'occuper. Et l'être humain devient quelqu'un qui est assujetti aux tâches difficiles, à une vie pénible, à un effort laborieux pour s'en sortir, trouver son pain, pour faire face à ses besoins. La vie devient dure à cause du péché. Et puis, quand ça ne suffisait pas, nous vivons une vie dure, nous souffrons, nous peinons, et on finit par quoi ? Par mourir. C'est vrai, c'est le destin de tous les êtres humains, encore aujourd'hui. À cause du péché. La vie humaine est plongée dans le péché. Notre vie d'aujourd'hui est une vie où le péché règne complètement. L'homme d'aujourd'hui n'est pas mieux que Adam. Puisque l'homme d'aujourd'hui vit de la même façon, il vit sans Dieu. Dieu est mort, comme disait l'autre. Ni Dieu, ni maître. Nous sommes nos propres dieux aujourd'hui. Nous décidons par nous-mêmes. L'éducation que nous recevons à l'école, l'éducation que nous recevons à la maison, n'est-ce pas que le thème central, de base, le thème principal de notre éducation, n'est-ce pas l'autonomie de la volonté? C'était déjà présenté déjà au siècle, il y a déjà le 19e siècle avec Émile Durkheim, c'est le thème majeur. Les sociologues, les psychologues et tout, c'est ce qu'ils disent. L'autonomie de la volonté. Ce qu'on veut faire de nous, c'est des entités indépendantes et souveraines qui peuvent décider de ce qu'ils veulent faire de leur vie. C'est ça l'individu. Et dans ce choix-là, Dieu n'est pas là. C'est moi qui décide de ma vie, de comment je vais faire. Des choix de ma vie, c'est moi qui le décide tout seul. Voyez ? Aucune différence avec Adam. Aucune différence. Tous, nous sommes pécheurs. Tous, nous sommes condamnables. J'avais dit, Dieu a créé les hommes. Et ce Dieu qui a créé les hommes, c'est aussi un Dieu qui est saint, qui réclame que la relation avec lui soit une relation authentique, permanente, mais qui soit une relation dans laquelle il n'y a pas de mélange. Un peu comme un ami qui aimerait bien que je sois son ami, mais pas que je sois son ami avec aussi d'autres amis qui ne sont pas nécessairement, enfin, qui sont ses ennemis ou des choses comme ça. Laisse Andy chanter et parler, grand-mère. Il apprend déjà à prêcher. Mais vous savez que il y a un grand prédicateur qui, à 4 ans, interrompait chaque fois le prédicateur. À 4 ans. Et le prédicateur lui disait toujours, laissez-le, laissez-le. Vous savez, il est devenu un très grand prédicateur. Il s'appelle Jimmy Swaggart. Nous sommes face au problème du péché. Et à cause du péché, nous sommes face à la question de la mort. La mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Nous menons notre vie, notre société, de manière à ce que nous puissions être en position de choisir notre vie indépendamment de Dieu. Mais nous oublions que notre Dieu n'est pas seulement le Créateur, il est aussi le Dieu Saint et le Dieu Tout-Puissant. Si la destinée de l'homme était de vivre en communion avec Dieu, en relation avec Dieu, et que celle-ci est interrompue, il y a évidemment une sanction qui tombe. La mort devient inéluctable. La mort devient quelque chose auquel on ne peut pas échapper. Et on peut faire tout ce qu'on veut, mais elle est là, elle est présente. Et est-ce qu'on peut gagner contre la mort ? Je repose encore la question. Peut-on gagner contre la mort? Heureusement, l'histoire dramatique de l'homme a trouvé une issue heureuse. Le Dieu saint et juste, qui était offensé par le péché de l'homme, et qui était en droit de le condamner. Et que, de toute façon, on était condamné par la séparation. Eh bien, ce Dieu va établir un pont avec les hommes. Ce Dieu va avoir pitié de la souffrance et de la misère de l'homme. Au lieu de laisser l'homme continuer dans cette folle course à la mort, Dieu va mettre en place un plan pour sauver l'homme, pour le sauver du péché et aussi de la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Et ce projet est le message central de la Bible. C'est ce que nous appelons l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu juste, le Dieu juste, qui devait exercer un jugement pleinement mérité pour les hommes, le Dieu en colère contre sa créature qui s'est rébellée, a choisi d'agir avec miséricorde. Pourquoi ? Par amour. Simplement. Par amour. Aussi incroyable que cela soit, Dieu est un Dieu d'amour. Et vous savez que l'amour peut faire des grandes choses. L'amour peut faire des choses qui peuvent être complètement incroyables. L'amour peut aller jusqu'au sacrifice de l'être, pour l'être qu'on aime. Oui, le Dieu saint est aussi un Dieu d'amour. Et ce plan de sauvetage, nous l'avons déjà entendu un tout petit peu, ce plan de sauvetage consiste à envoyer son Fils Jésus-Christ pour sauver l'humanité. Jésus devait mourir à la croix pour porter les péchés des hommes. J'aimerais, peut-être, nous sommes habitués à cela, mais peut-être que d'autres ne sont pas habitués à cela. Comprendre que, à la mort, à la croix, lorsque Jésus meurt, il prend notre place individuelle. C'est notre place, c'est notre péché pour lequel il meurt. Il prend la condamnation, notre condamnation à mort, et les hommes, et nous les hommes, nous pouvons être acquittés, nous pouvons échapper à la mort. La mort de Jésus, le fait qu'il soit mis à la croix et qu'ensuite il soit mis dans une tombe, si les choses s'étaient terminées de cette façon-là, ça n'aurait aucun sens puisque la mort aurait eu la victoire. On ne parlerait plus que d'un Jésus au passé. Mais Jésus est ressuscité le troisième jour et il est sorti de la tombe. Il a vaincu la mort par la puissance de Dieu. Voilà notre premier pas pour résoudre le problème de est-ce qu'on peut gagner contre la mort. Jésus lui-même le disait. Jean chapitre 11, verset 25, il dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Il vivra, même s'il meurt. La mort peut être vaincue, puisqu'on peut continuer à vivre malgré la mort. Malgré la mort. Alors, comment être sauvé? Eh bien, comment faire pour que cette mort, cette œuvre de Jésus-Christ, puisse m'accorder d'avoir la victoire sur la mort? Comment faire? Eh bien, il y a deux choses. Il y a le fait de croire en Jésus, croire à ce que Jésus a fait à la croix, croire que cela est pour moi, croire que cela me donne effectivement la force, le pouvoir de vaincre la mort, croire à cela. Croire, c'est quelque chose de tout simple, de tout compliqué. Les enfants ont plus facile que nous à croire, ils sont facilement crédules. Mais croire, c'est aussi accepter une vérité. C'est poser comme vrai quelque chose que quelqu'un dit. Croire, c'est attester la véracité de quelque chose. Croire, c'est aussi adhérer à quelque chose. Si on croit qu'à la mort, à la croix, Jésus est mort pour moi, pour mes péchés, alors nous sommes dans la bonne direction. Deuxième chose, il faut aussi faire un acte de réception. Il ne s'agit pas simplement de dire, ouais, je crois généralement, je crois en général que oui, Jésus, il est mort. Oui, c'est vrai, globalement. Mais il faut faire l'acte de réception, dire c'était pour moi et j'en tire la conséquence. Que puisqu'il est mort pour moi et puisque c'est le désir de Dieu de rétablir la communion avec moi, alors je fais le pas vers lui. Je l'invite à venir dans ma vie. Je l'invite à devenir mon Seigneur et mon Sauveur. Jean chapitre 1, versets 12 à 13. Mais à ceux qui l'ont reçu, voyez, à ceux qui croient en son nom, elle, donc la parole de Dieu, Jésus-Christ, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Lorsque je crois en Jésus-Christ, eh bien, je deviens un enfant de Dieu. Membre de la famille de Dieu. Je passe de la condamnation à la vie. Un homme dans la Bible a vécu cette expérience. Et j'aimerais que nous puissions aussi le découvrir et le lire aussi. C'est l'apôtre Paul, dans Philippiens chapitre 1, le verset 21. Et je pense que ça, c'est vraiment la réponse à cette question-là. Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Voilà la réponse. Peut-on vaincre? Peut-on gagner contre la mort? Oui. On peut continuer à vivre malgré la mort si Christ devient notre vie. La mort même devient quelque chose qui n'est plus un problème pour moi. Ce n'est plus une question qui me terrorise. Ce n'est plus une question qui me fait peur, une question qui me bloque. Il y a un avantage. La mort devient un passage d'une vie à une autre. De la vie que je vis ici à la vie éternelle avec Dieu, qui a déjà commencé d'ailleurs. Et la vie que je vis ici sur la terre devient une vie où je peux faire face à ma réalité, dans la joie et dans la paix. Parce que je sais que l'issue, ça ne sera pas la condamnation à mort, mais l'issue, ça sera la vie encore avec Dieu. Une vie qui va continuer. Il est vrai que mourir, la mort ne pourra pas être effacée de notre réalité, dans le sens que, inéluctablement, nous allons mourir. Mais la terreur de la mort, l'effet négatif de la mort sur nos vies, nous allons vaincre cela lorsque nous devenons chrétiens. Nous pourrons alors vivre notre vie malgré les difficultés, les épreuves, les combats. La mort physique pourrait toujours exister, mais elle n'a plus d'effet sur nous. Nous n'allons plus vivre dans la peur et dans la terreur. Elle n'est plus la fin de notre vie. Ce n'est plus le terminus de notre existence. La mort devient le passage d'une vie à une autre. La mort devient le passage de la vie terrestre à la vie vers le ciel. Et j'aimerais peut-être encore avant de vous demander de réfléchir à cette question, de vous mettre face à ça, peut-être de regarder encore le texte de 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. C'est un projet que Dieu a avec l'homme. La parole de Dieu sait bien, présente bien que la mort, elle est inéluctable. Je ne suis pas en train de venir vous dire que nous sommes des islanders qui allons traverser des générations et des générations, sauf si on nous coupe la tête. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je suis en train de parler d'une vie éternelle où physiquement nous restons debout jusqu'à 1000 ans, à 2000 ans, à 6000 ans. Ce n'est pas l'idée. Je viens de dire une chose. C'est que face à la question de la mort, amorcée à cause du péché, il y a une solution. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, il parle de la résurrection de notre corps, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. Et regardez cette parole. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ. Peut-on gagner contre la mort? Oui, par Jésus-Christ. Peut-on avoir la victoire? Oui, par Jésus-Christ. Puisqu'il y a une espérance dans notre cœur. Il y a un projet au-delà de la mort. La mort devient une étape de notre existence comme tant d'autres étapes. Ce matin, je voudrais vous inviter à regarder un peu dans votre vie, en tout cas pour ceux qui ne l'ont jamais fait, ceux qui sont face à cette question aujourd'hui, vous inviter à regarder un peu dans notre vie. Est-ce que avez-vous peur de la mort? Est-ce que la mort vous turlupine tellement que ça vous empêche de dormir? Ou même, peut-être pas, il y a des gens qui ont une méthode très très efficace contre les questions embêtantes. On l'ignore. Elle m'embête, je l'ignore. Elle n'existe plus, cette question-là. Sauf que, à un moment donné, lorsque la maladie me frappe, lorsque l'inéluctable arrive en face de moi, la question surgit avec beaucoup de violence. Peut-être qu'il vaut mieux y réfléchir avant. Y réfléchir déjà maintenant. Nous sommes tous confrontés à la mort. Et qu'est-ce qu'on va faire quand elle viendra? Est-ce que vous savez ce qu'il advient de vous après la mort? Nous savons où nous allons après la mort. Nous allons vers Dieu. C'est une espérance que nous saisissons. Et vivre cette vie de péché, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut la peine d'être en but avec cette existence misérable et d'être si seul face aux problèmes auxquels on est confronté? Est-ce que ça vaut la peine? Et ça vaut la peine de vivre après avoir compris que le péché est une grosse tâche dans notre existence qui nous empêche d'être véritablement ce que nous sommes réellement, les créatures de Dieu qui sont destinées à vivre en relation avec Dieu. Ce matin, j'aimerais vous inviter, entre ceux qui ne l'ont pas encore fait, à donner votre vie à Jésus. Beaucoup de blocages dans nos vies, beaucoup de problèmes sont aussi dus à la peur de la mort. Notre façon de vivre, regardez, certains jeunes gens vont s'enfoncer complètement dans la vie, complètement débridée, en disant « mangeons, buvons aujourd'hui parce que demain on ne sait pas comment est la vie ». Défoulons-nous. C'est cette philosophie qui veut qu'on profite du moment présent, n'est-ce pas? C'est une philosophie qui a derrière dans la tête l'idée que profitons maintenant parce que demain, peut-être on va mourir. Quelle vie avez-vous envie de vivre? On peut gagner contre la mort. On peut être vainqueur de la terreur que la mort nous met en face. On peut l'être en donnant sa vie à Christ. Alors, nous allons simplement, un moment de silence, je vais vous demander de fermer vos yeux. Ce n'est pas une séance d'hypnose, hein. Je ne suis pas hypnose. Non. Ce n'est pas une séance de ce n'est pas un petit jeu que je joue avec vous. Non, je vous respecte trop pour faire ça. Mais juste vous demander. Quand on ferme souvent les yeux, on rentre en soi-même et on est confronté à soi-même. C'est ce que je vous invite à faire, à rentrer au-dedans de vous-même. Oh, les autres peuvent le faire en ayant les yeux ouverts. Hein. Ce n'est pas un fouet que je dis à tout le monde, fermez vos yeux. Mais je vous demande juste de rentrer au-dedans de vous-même et de réfléchir. Quelle réponse donnez-vous à l'amour de Dieu ce matin? Dites-vous oui. Je veux donner ma vie à Christ. Je veux décider que ma vie soit rangée selon le modèle original. Ou bien, je vais poursuivre encore mon chemin. Peut-être je me dis, j'ai encore le temps. un petit moment de réflexion. Essayez de réfléchir à tout ce que nous avons dit ce matin et à lui donner un sens dans votre propre vie. Qu'est-ce que je veux? Est-ce que donner ma vie à Christ, ça ne vaut pas la peine? Si ce matin, tout ce qu'on a dit a du sens pour vous, si ce matin, ce qu'on a dit a éveillé en vous l'envie de mettre votre vie dans les rails de Dieu, dans le rail de Jésus, alors j'aimerais que vous puissiez vous manifester et que vous puissiez l'exprimer. Oh, c'est pas pour que on puisse vous contrôler, mais c'est pour que nous puissions voir si on peut vous aider aussi, si on peut vous entourer aussi, si on peut vous aider dans votre marche personnelle avec Dieu. Si ce matin tout ça a du sens pour vous, j'aimerais que vous le manifestiez simplement en levant votre main là où vous êtes. Merci, je vois ta main. Merci, je vois ta main. Merci, je vois ta main. Peut-être que toutes ces choses ont un sens pour lequel vous êtes en réflexion. C'est pas que vous êtes contre, mais c'est pas que vous êtes pour. Ah, ça vous turlupine encore la tête, ça vous travaille encore. Si c'est votre cas ce matin, ne partez pas, s'il vous plaît, avec vos questions, s'il vous plaît. Voyez-moi et parlons-en. Parlons-en. Ne restez pas sur les questionnements. Si ce matin aussi, toutes ces choses n'ont pas d'écho pour vous et que c'est un peu loin de votre réalité, alors il me reste plus qu'à souhaiter vraiment qu'un jour, un moment, peut-être, que ça devienne quelque chose qui va peut-être résonner. Mais en tout cas, sachez que même si ça n'a pas d'écho pour vous ce matin, sachez que Jésus vous aime, vraiment, sincèrement. Il veut une histoire d'amour avec vous, sincèrement. Et nous aussi, nous vous aimons. C'est pas parce que vous n'adhérez pas à ça qu'on va vous rejeter. Non, au contraire. Nous pouvons faire route ensemble. Gardons contact. Ne nous séparons pas en disant, voilà, je ne veux plus. Mais libre à vous, que Dieu vous bénisse aussi. Alors ce matin, pour ceux qui ont manifesté vraiment le désir de donner leur vie à Christ, pour qui tout ça a un écho, j'aimerais que vous inviter à cette démarche, la démarche suivante. Pour devenir chrétien, il faut prendre la décision de donner sa vie à Christ. Et donner sa vie à Christ, cela se fait aussi par la prière. C'est moi qui trouve des mots pour dire à Jésus combien je désire qu'il devienne mon ami, mon Seigneur, mon Sauveur, qu'il devienne celui qui est dans mon cœur et qui vit avec moi. Et je vous propose cette prière et vous pouvez la répéter après moi ou y réfléchir et la faire à titre personnel vous-même. Voici cette formule que je n'impose pas mais que je propose. Seigneur Jésus, je prends conscience aujourd'hui que je suis pécheur et que je vis dans le péché. Je prends conscience aussi qu'à cause de cela, je suis destiné à la mort. Merci pour le fait que tu es venu sur la terre, le fait que tu es mort à la croix, que tu es ressuscité, le fait qu'en toi, je peux avoir la vie éternelle. C'est-à-dire cette relation renouvelée avec Dieu. Pardonne mes péchés et aide-moi à vivre ma vie selon ce que Dieu me demande. Entre dans ma vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Influence ma vie. Transforme-moi. Que je devienne un chrétien debout. Merci Seigneur. Amen.